Olivier Denray.
Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Le patron du MEDEF n'a pas l'intention de revenir sur ses propositions provocantes en matière de flexibilité dans le Parisien de ce matin. Pierre Gattaz confirme juste qu'elles ne seront pas dévoilées demain, comme cela était initialement prévu. Le patron des patrons dit ne pas vouloir perturber l'agenda politique de cette semaine. Référence au vote de confiance réclamé cet après-midi par Manuel Valls et à la conférence de presse du chef de l'État jeudi prochain. Pour le reste, Gattaz assume la panoplie de mesures dévoilées hier par nos confrères des Échos et il réaffirme que ces propositions très antisociales permettront de créer des centaines de milliers d'emplois. L'actualité politique du jour est bien sûr dominée par le discours du Premier ministre au Palais Bourbon, à l'issue duquel Manuel Valls engagera pour la deuxième fois en 5 mois la responsabilité de son gouvernement. A priori, une trentaine de députés socialistes devraient s'abstenir, de même que les élus écologistes, si l'on en croit ce matin, le député Noël Mamère. Alors que 60% des avions d'Air France restent cloués au sol aujourd'hui, les négociations entre les syndicats de pilotes et la direction se poursuivent. Toujours pas de sortie de crise en vue, d'après le PDG de la compagnie qui dit avoir fait des propositions aux grévistes. La direction a notamment fait savoir qu'elle s'engageait à limiter la flotte de Transavia, la filiale low cost du groupe. L'idée étant de rassurer les pilotes sur le fait que Transavia n'avait pas vocation à remplacer Air France dans le futur. Des moments difficiles et éprouvants vont ponctuer les 5 semaines du procès Xynthia, du nom de cette tempête meurtrière qui, il y a 4 ans, a coûté la vie à 29 personnes. 120 parties civiles étaient hier donc présentes au Sable d'Olonne. Face à elles, 5 prévenus renvoyés pour homicide involontaire, dont l'ancien maire de la Faulte-sur-Mer en Vendée. Un face-à-face qui reprend cet après-midi. Sur place, Véronique Reberotte.
C'est la projection d'un petit film d'un peu plus d'un quart d'heure qui ouvrira cette seconde journée du procès Xynthia. 17 minutes précisément d'un film issu d'expertise retraçant le phénomène de montée des eaux au moment de la tempête. Une montée des eaux ultra rapide, implacable, quelques minutes pour faire d'une maison un aquarium après la submersion de la digue, censée protéger un lotissement à la Faulte-sur-Mer bâti dans une zone qui aurait dû être classée rouge, inconstructible. Une zone surnommée aujourd'hui la cuvette mortifère. Devant les familles des victimes, 120 parties civiles, le président du tribunal n'a pas caché qu'il y aurait des moments extrêmement difficiles, éprouvants à revivre pour elles cette nuit d'horreur. À son arrivée hier, l'ancien maire de la Faulte-sur-Mer, René Maratti, en costume sombre, a assuré que ses pensées allaient spécialement aux 29 victimes et leurs familles, toutes des connaissances. « J'ai fait ma mission de maire », a-t-il déclaré. Un maire qui devra expliquer pourquoi il n'a pas alerté la population du danger encouru, accordé des permis de construire en zone inondable. 4 autres prévenus, dont 2 adjoints de la Faulte-sur-Mer, sont poursuivis pour homicide involontaire aggravé et mis en danger délibéré de la vie d'autrui. Ils encourent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
L'Italie et Malte viennent d'ouvrir une enquête pour tenter de vérifier les dires des rares survivants. La semaine dernière, 500 migrants ont trouvé la mort en Méditerranée. Partie d'Égypte, leur embarcation aurait été coulée par les passeurs parce que les candidats à l'exil refusaient de changer de navire en pleine mer. Réunis hier à Paris, une trentaine de pays se sont engagés à combattre ensemble les djihadistes de l'État islamique. Cette guerre annoncée, dont les Américains sont les fers de lance, concerne pour l'instant surtout l'Irak, puisque les pays sont divisés sur la meilleure façon d'agir en Syrie. La France, par exemple, ne veut pas participer à des frappes aériennes en Syrie qui pourraient à terme profiter au régime de Bachar el-Assad. François Hollande a hier aussi évoqué la situation humanitaire en Irak, où les réfugiés et les déplacés sont chaque jour un peu plus nombreux, comme le confirme Nadine Epstein, le porte-parole du HCR, William Spindler.
L'HCR poursuit une opération d'aide majeure en Irak en bénéfice de près d'un demi-million de personnes qui ont été déplacées, surtout au nord de l'Irak. Les besoins en matière d'hébergement restent très importants. Il n'y a pas suffisamment de tentes et de camps pour toutes ces personnes. Et un nombre important de personnes déplacées vivent dans des écoles et des autres bâtiments publics. Et les écoles, par exemple, occupées par ces personnes, ne peut pas être utilisé par les enfants. Le début de l'année scolaire en Irak, par exemple, est retardé du fait que les écoles sont occupées par des personnes déplacées.
Aujourd'hui, on peut parler de combien de personnes déplacées en Irak?
Environ 1,8 million de personnes ont été déplacées en Irak depuis janvier. et ils sont répartis dans des différents sites à travers le pays. Mais l'Irak accueille aussi quelques 215 000 réfugiés qui sont arrivés de la Syrie.
Un ciel nuageux sur une grande partie du pays. Il pleuvra sur le sud et sur la plupart des reliefs. La journée sera en revanche agréable sur le nord et l'est. Les températures cet après-midi iront de 23 à 30 degrés. C'est Antoine Mercier qui vous présentera à 12h30 le prochain journal de la rédaction.